Radio Kapi.
Lutte contre la désinformation liée à Ebola, une des priorités des autorités provinciales de l'Ituri. Pour le gouverneur, la désinformation est un des obstacles qui favorise la propagation du virus. Johnny Luboy appelle la population à s'informer auprès des sources officielles. Nous sommes le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. À Matadi, les cours d'eau se transforment peu à peu en dépotoirs, ce qui augmente les risques pour la santé et l'environnement, alertent les experts du secteur. Le projet d'arrêté portant création du mécanisme de dialogue permanent de l'Ituri franchit une nouvelle étape. Le texte a été validé mercredi par les parties prenantes. Alors, quelle est la portée de cette initiative face aux multiples processus de paix engagés depuis la reprise des violences en Ituri en 2017? Nous en parlons avec notre invité Christian Vangazi, secrétaire exécutif de ce mécanisme. Madame, Monsieur, bonjour. Lutte contre l'épidémie d'Ebola en Ituri. La désinformation demeure l'un des principaux obstacles dans ce combat. Selon le gouverneur de province, les rumeurs et les fausses informations compromettent les efforts de sensibilisation. Elles exposent davantage les populations au risque de contamination, notamment dans les sites déplacés, comme celui de Plaine Savo, qui accueille plus de 80 000 personnes. Le général Johnny Luboya Kachama affirme que la lutte contre la désinformation constitue une priorité pour les autorités provinciales avec l'appui de la MONUSCO et des agences du système des Nations Unies. Il appelle ainsi la population à s'informer auprès des sources officielles et à collaborer avec les services de santé pour freiner la propagation de la maladie. Suivez cet extrait des propos du gouverneur de l'Ituri, recueilli par Isaac Raymond.
Nous travaillons aussi sur le plan de la communication. Nous planifions ensemble avec le chef de bureau pour que nos équipes descendent ensemble, qu'on ait les mêmes messages dans toutes les zones difficiles. C'est comme ça que vous avez suivi que hier, depuis 48 heures par exemple, nous avons une forte équipe qui est allée à Boulé pour parler à ces déplacés-là de quitter les sites, parce que si nous avons seulement un cas d'infection, ça risque d'être très, très, très dangereux. C'est comme ça que j'ai parlé d'une grosse équipe qui est allée là-bas pour lutter contre la désinformation, hein, l'infodémie. Nous travaillons ensemble, c'est très difficile. Parce qu'il y a même des grands leaders ici qui donnent un autre message. C'est une maladie qui est créée. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ensemble, nous sommes en train de travailler avec la MONUSCO pour donner la vraie information à cette population-là.
La propagation de rumeurs et des fausses informations sur Ebola, les infodémies, comme les appellent certains, a déjà provoqué plusieurs incidents en Ituri, notamment le cas des actes de violence. Ils ont des équipes et des infrastructures engagées dans la riposte contre l'épidémie. Entre-temps, le ministre de la Santé publique dénonce une attitude qu'il qualifie de discriminatoire. Certains pays refusent en effet l'accès à leur territoire à tous les ressortissants congolais en raison de l'épidémie d'Ebola. Roger Kamba a exprimé son indignation hier à Kinshasa lors d'un briefing de presse conjoint avec le ministre de la Communication et des Médias. Il estime qu'aucune raison ni scientifique ni sanitaire ne justifie un tel refus de visa, notamment pour les personnes vivant loin des zones touchées par l'épidémie. Place Nouralamayanda nous propose cet extrait de la déclaration du ministre de la Santé.
On n'est pas à risque parce qu'on est Congolais. Ce n'est pas la nationalité qui met le risque, c'est le fait d'avoir été en contact avec un malade. Donc il ne faut pas qu'on dise les Congolais ne peuvent pas venir parce qu'ils sont Congolais. Les personnes, même étrangères qui vivent ici, à Bounia, peuvent être des personnes à risque si jamais ils ont été en contact avec le malade. Mais quelqu'un qui n'est pas ici, qui n'a pas de contact avec un malade depuis plus de 20 jours. Comment voulez-vous lui interdire du fait tout simplement qu'il est congolais? Ça n'a aucun sens. Et dans ce sens-là, c'est discriminatoire. Moi, je parle beaucoup avec les Américains. J'ai reçu l'ambassadeur américain ici avec toute l'équipe de CDC aujourd'hui. Encore une fois, je leur pose toujours la même question. Quelle est la mesure de santé publique qui explique ça? On sent l'embarras parce que scientifiquement, ça ne tient pas.
De son côté, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, indique que le gouvernement poursuit ses échanges avec les autorités américaines. Objectif, présenter les avancées de la riposte contre Ebola, obtenir la levée de cette mesure. Et c'est toujours dans le cadre des restrictions des mouvements liés à l'épidémie d'Ebola qu'une centaine de Congolais sont bloqués depuis près de 2 semaines à Rusumo, à la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie. Selon les témoignages de l'un d'eux, ils ne peuvent pas rentrer au pays via le Rwanda suite aux mesures prises pour limiter la propagation du virus annoncée il y a une dizaine de jours. Épuisés à court de moyens de subsistance, ces Congolais appellent à l'intervention urgente du gouvernement congolais et des Nations Unies. Toussaint Maïcha explique leur calvaire au téléphone de Bernard.
Nous sommes de nombreuses personnes venues de la Tanzanie qui se sont vues refuser le transit par le Rwanda. Les motifs avancés est purement sanitaire pour des motifs d'Ebola. Nous, on vient de faire plus de 3 semaines en Tanzanie parce que nous sommes des petits commerçants, d'autres sont des transporteurs qui font l'exportation des véhicules vers Goma. On nous a contraints de rentrer en Tanzanie. Donc ici en Tanzanie, il n'y a pas aussi de passage pour aller peut-être en Ouganda, et puis c'est très loin en tout cas. Il n'y a pas moyen d'aller aussi au Burundi parce que les gens qui sont à Goma, ils ont des tenants et des passeports de M23 et qui ne sont pas facilement acceptés au Burundi. Toutes ces familles qui sont ici, il y a des femmes, il y a des enfants, commencent déjà à passer la nuit à la belle étoile parce que dépourvus de tout moyen financier. Nous demandons aux autorités, aux organisations internationales et des Nations Unies pour un plaidoyer pour que les gens puissent être encadrés et rentrer chez eux dans le respect des mesures sanitaires mises en place par les pays.
Pour rappel, depuis le 22 mai dernier, le Rwanda a renforcé ses mesures de prévention contre la propagation du virus Ebola. Il a interdit l'entrée sur son territoire à tout voyageur ayant séjourné en RDC au cours des 30 derniers jours. Par conséquent, les villes de Goma et de Bukavu, fortement dépendantes des échanges transfrontaliers et des flux financiers avec le Rwanda, sont désormais confrontées à de sérieuses perturbations de leurs activités commerciales et migratoires. Pendant ce temps, la MONUSCO poursuit ses efforts pour renforcer la sécurité des populations civiles et soutenir les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri, c'est notamment à travers des opérations conjointes avec les FARDC, des missions de reconnaissance, des patrouilles de sécurisation, des activités de sensibilisation sanitaire et des actions de proximité avec les communautés. Les casques bleus demeurent ainsi engagés aux côtés des autorités congolaises pour protéger les civils et maintenir un environnement stable. Au micro de Marc Marofimbo, le colonel Charles Idjiwa, porte-parole militaire de la MONUSCO, explique certaines de ses interventions.
Au Nord Kivu, le 29 mai 2026, la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, en coordination avec les FADC, a mené une mission de renseignement, de surveillance et de reconnaissance le long de l'axe de la rivière Semuluki dans le territoire de Beni, à la suite d'informations faisant état de mouvements présumés des ADF. Cette opération a permis l'interpellation d'un suspect, présumé membre de ce groupe armé. En Ituri, dans le territoire de Djougou, du 25 au 26 mai 2026, le contingent népalais de la MONUSCO basée à Fataki a conduit une mission de longue portée dans les localités d'Ala, Nga et Tsuba afin de renforcer la présence sécuritaire, protéger les civils et garantir la libre circulation des populations. Par ailleurs, plusieurs activités de prévention contre Ebola ont été menées, notamment une séance de sensibilisation au profit des militaires FADC à Pimbo le 29 mai 2026. À travers ces différentes actions, la MONUSCO réaffirme son engagement à protéger les populations civiles, soutenir les autorités nationales et contribuer à la stabilité ainsi qu'à la santé publique dans les zones affectées par l'insécurité.
Nous sommes le 5 juin, journée mondiale de l'environnement. À Matadi, dans le Congo central, le cours d'eau se transforme peu à peu en véritable dépotoir. La population y déverse toutes sortes de déchets. Cette pollution dégrade l'environnement, contamine l'eau et favorise la propagation des maladies. Elle augmente également les risques d'inondation, alerte des environnementalistes en cette journée consacrée à l'environnement. Elise Kavira nous décrit un peu plus la situation.
Lors de notre passage dans la ville, un cours d'eau a particulièrement retenu notre attention, celui du marché Kinkela Lutete, appelé Mvoidou. Entouré d'activités commerciales, il est aujourd'hui envahi par des sacs d'immondices et transformé en véritable poubelle à ciel ouvert. Sur place, Hélène Luemba, riveraine, pointe du doigt certains comportements.
C'est bon par exemple, c'est juste à côté du marché. Ce sont les gens qu'on paye pour enlever la saleté devant les magasins qui viennent la nuit pour jeter ça sous le pont. Donc ce sont ces habitudes qui doivent cesser. Il faut qu'il y ait un service pour faire les suivis. On t'attrape en train de jeter, on te fait payer une amende. Sinon, ça ne va pas s'arrêter.
Face à cette situation, le bourgmestre de la commune de Matadi, Patrick Emesso Vubu, reconnaît l'ampleur du problème. Malgré plusieurs tentatives, les résultats tardent à se faire sentir.
Moi, je suis trop pragmatique. J'ai essayé, je papille et j'ai saisi les archives provinciales. D'abord, j'avais saisi la ville aussi a dit que la citation, elle dépasse. Nous avons saisi la province, et la province en train de réfléchir quoi faire pour essayer un peu d'évacuer les inondations qui sont présents ici. Mais vraiment, réellement, c'est un problème. C'est un problème dangereux et grave pour la société.
En attendant une réponse durable, l'autorité communale affirme avoir déjà instruit la police du sous-commissariat de Mvoidou ainsi que les gestionnaires du marché d'appliquer strictement des sanctions contre les contrevenants. Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi.
Et pour cette réalité qui nous est rappelée ici, si nous ne nous occupons pas de protéger l'environnement, le changement climatique s'occupera de nous. C'est le message lancé par un consortium d'organisations environnementales à l'occasion de ce 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Le coordonnateur du foyer de développement pour l'autopromotion des pygmées indigènes défavorisés, membre du consortium, appelle à une prise de conscience collective face à la dégradation de l'environnement. Vicar Batundi Angi est au micro de Bernard Denyangi.
Les consortiums FDAP, DACDA, Sheradec, VEDO, CEBES et FORET ont estimé nécessaire de lancer une campagne de mobilisation parce qu'elles devront prendre une conscience collective face aux fléaux liés au changement climatique. Aujourd'hui, nous subissons déjà les effets de la perturbation de ces eaux culturelles, mais également il y a une montée à flèche de catastrophes naturelles. Heureusement, pour cette année, le thème et action climatique. Pour nous, il y a nécessité d'encourager certaines approches comme l'économie verte. Aujourd'hui, nous encourageons tous les partenaires, tous les gouvernements à insister sur le respect de l'environnement dans tous les projets. On doit réduire sensiblement la consommation des papiers, parce que les papiers que nous consommons proviennent des bois. L'alternative serait de promouvoir la gestion numérique.
Autre chose, le renforcement de l'enregistrement des réfugiés congolais et burundais dans les camps et centres de transit est l'une des principales recommandations issues de la réunion tripartite organisée à Kinshasa entre la RDC, le Burundi et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Au terme des deux jours de travaux clôturés ce jeudi, les trois parties ont échangé autour de mesures visant à mieux encadrer le rapatriement et la réintégration des réfugiés dans leurs pays respectifs. Elles ont également convenu d'un meilleur accompagnement des rapatriés dans leur région d'origine à travers notamment des projets de développement communautaire et un suivi post-retour. Écoutons à ce sujet le vice-premier ministre congolais en charge de l'intérieur et de la sécurité, Jacquemain Chabani, dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo mettra tout en œuvre pour traduire en actes les résolutions qui ont été formulées à l'issue des présentes assises afin de favoriser le retour et la réintégration des réfugiés congolais qui ont librement consenti au rapatriement. À cet égard, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour solliciter une fois de plus l'accompagnement de la communauté internationale à travers le HCR, particulièrement dans la mobilisation des ressources nécessaires pour le rapatriement, la réintégration, le relèvement communautaire ainsi que la réhabilitation de l'environnement dans les zones d'accueil des réfugiés. Le rapatriement des réfugiés étant volontaire, le gouvernement de la République renouvelle son engagement à poursuivre sa mission de protection des réfugiés burundais ayant trouvé asile sur notre territoire, conformément aux instruments juridiques pertinents en la matière.
Tout en saluant la tenue de ses assises, Pierre Atchom, représentant du HCR en RDC, réaffirme l'engagement du HCR donc à accompagner le gouvernement congolais et burundais dans la mise en œuvre des résolutions adoptées, cela afin de faciliter le rapatriement volontaire et la réintégration durable des réfugiés. Dans ce journal aussi, cette mise au point, les accords entre les États-Unis d'Amérique et la RDC ne constituent pas un simple partenariat minier, mais un cadre stratégique appelé à s'étendre à plusieurs secteurs. Cette précision a été apportée hier jeudi par le vice-premier ministre de l'économie lors de l'édition du réseau d'affaires panafricain Makutano-Talk. La rencontre était consacrée aux enjeux économiques et aux retombées attendues de ces accords pour les entreprises congolaises. Écoutons ces précisions de Daniel Mokoko Samba au micro de Jean-Marc Matwaki.
Il est important de rappeler que le 4 décembre, nous n'avons pas que signé l'accord de partenariat stratégique, qu'il a été par le secrétaire d'État Rubio et moi-même. Et nous avons également signé un mémorandum d'entente sur la coopération sécuritaire et il avait été par le secrétaire d'État Marco Rubio et la ministre d'État et le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire. Il n'y a pas de clause secrète. Il est envisagé trois types de projets. Les projets de réserve d'actifs stratégiques, c'est des projets d'exploitation et de transformation minière qui sont supposés être assis sur des réserves minières libres de tout engagement avec d'autres privés et sur lesquels l'État congolais a la gestion la plus libre totale et sur lesquels il est reconnu entre deux États où il est accordé aux entités américaines un droit de première offre sur une période de 3 mois.
Avant d'aller à l'international, sachez qu'à Kinshasa, dans plusieurs carrefours et parkings de la capitale, donc, de nombreux jeunes se lancent dans le lavage de véhicules pour gagner leur vie. Éponge à la main et seau d'eau à côté, ils proposent leurs services aux automobilistes pour environ 3 000 à 4 000 francs congolais par véhicule. Cette activité informelle devenue indispensable pour certains traduit aussi les difficultés économiques auxquelles fait face une partie de la jeunesse kinoise. C'est un reportage signé Joyce Masanka.
Sous les soleils ardents et parfois dans la poussière des grandes avenues de Kinshasa, ils sont présents chaque jour. Ces jeunes laveurs de véhicules occupent le coin de rue et attendent les clients dans l'espoir de gagner de quoi survivre. Pour beaucoup d'entre eux, ce travail n'est pas un choix, mais une solution de dernier recours face au manque d'opportunités.
J'ai fait ce travail parce que je n'ai pas trouvé d'emploi. Et avec ce que je gagne ici, je peux manger et de ma famille.
La majorité de ces jeunes affirment avoir quitté l'école très tôt, faute de moyens. D'autres sont issus de familles nombreuses où chacun doit contribuer aux dépenses quotidiennes.
Ils travaillent vite et c'est moins cher, mais ils sont nombreux ici.
Mais derrière cette activité visible, les conditions de travail restent précaires. Manque d'eau, fatigue, exposition prolongée au soleil. Malgré ces contraintes, ces jeunes poursuivent leur activité au quotidien, portée par l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie.
Actualité internationale.
Afrique du Sud, les migrants jouent un rôle de bouc émissaire dans un contexte de pauvreté et de chômage. Le gouvernement mozambicain a dénoncé cette semaine la mort de 5 de ses ressortissants lors d'attaques xénophobes en Afrique du Sud. Il s'agit des premiers morts recensés dans le pays depuis le début de l'actuelle flambée et violence xénophobe. Après 2008, 2015, 2018, l'Afrique du Sud est secouée à nouveau par une nouvelle vague de manifestations et d'actions au coup de poing anti-immigrants.
L'invité.
Le projet d'arrêté portant création du mécanisme de dialogue permanent de l'Ituri franchit une étape importante. Le texte a été validé mercredi par différentes parties prenantes, dont le gouvernement, le leader communautaire et les chefs coutumiers. Cette validation est intervenue au terme d'un atelier de 2 jours organisé par visioconférence entre Kinshasa et Bunia par le ministère de l'Intérieur avec l'appui de la MONUSCO. Alors, quelle est la portée de cette initiative face aux multiples processus de paix engagés depuis la reprise des violences en Ituri en 2017? Élément de réponse avec Christian Vangazi, secrétaire exécutif de MDEPI au micro d'Isaac Raymond.
Christian Vangazi, bonjour.
Bonjour.
Le projet d'arrêté ministériel portant création et fonctionnement du mécanisme de dialogue permanent de l'Ituri vient d'être validé. Quelle est la quintessence de ce projet de loi?
D'abord, il faut rappeler que c'est une démarche née de la volonté des Ituriens. Tout a été conçu au niveau de la province de l'Ituri. Les leaders des communautés, de toutes les couches sociales, de voir comment on pouvait mettre en place un mécanisme qui puisse être pérenne, stable, permanent. Parce que le constat est parti du fait que beaucoup de projets sont saisonniers, limités dans le temps, d'où il fallait avoir un mécanisme permanent pour organiser les dialogues en Ituri. Et aujourd'hui, on discute avec tous les experts. Mais la quintessence, c'est que c'est un arrêté qui, à sa validation, nous allons soumettre la vice-primature et l'intérieur pour voir dans quelle mesure peut porter maintenant la volonté des Ituriens de construire la paix et la cohésion.
Vous avez dit à peu près 22 articles. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport, par exemple, aux objectifs de cette structure?
Il y a des objectifs, il y a des missions, etc. Bon, en fait, fait, les MDPI, c'est vraiment une structure qui voudrait assurer le suivi de tous les accords de paix qui ont été signés à la province de l'Ituri. Vous savez, aujourd'hui, l'Ituri a organisé plusieurs dialogues. En Ituri, on a signé plusieurs accords entre les groupes armés, il y a les accords entre les communautés, il y a des accords. Et donc, le vrai problème, c'est est-ce qu'on respecte ces accords? Et bien avant cela, il faut d'abord collecter, depuis tout ce temps-là, avoir une documentation claire et nette. Mais nous voulons aussi prévenir, surtout prévenir, parce que l'approche ou la perspective préventive vaut mieux qu'une approche curative. Et nous pensons aussi que notre rôle, c'est de pouvoir créer un trait d'union entre les autorités provinciales et les autorités nationales. Si on conjugue les efforts avec les niveaux nationaux pour que nous puissions venir avec des réponses efficaces par rapport à certaines questions, ça pourra être une très bonne chose. C'est aussi d'appuyer les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement, n'est-ce pas, communautaire et stabilisation à l'Ituri. Nous allons travailler aux côtés de toutes les politiques publiques mises à place par les gouvernements, les PDDRCS.
Alors, vous avez dit qu'il y a eu plusieurs dialogues, donc plusieurs accords. Alors, quelle est la particularité ou la spécificité du mécanisme de dialogue permanent? Parce que toutes les initiatives n'ont pas permis de restaurer la paix.
La particularité, c'est le fait que nous devons travailler sur la paix, pas seulement à temps de conflits, c'est aussi à temps d'accalmie. Et d'ailleurs, il y a des auteurs, des bons théoriciens en matière de gestion ou de transformation des conflits qui pensent que c'est plus au moment d'accalmie qu'il faut travailler. Et ici, comme je l'ai dit tantôt, la prévention. Nous allons commencer par collectionner tout ce qui a été fait. Nous allons le convertir à un plan d'action opérationnel pour voir quels sont les indicateurs qui peuvent nous aider dans la mise en œuvre. Et surtout, nous avons une approche aussi de recherche, la recherche des causes profondes des conflits. Et donc, au jour sur de nouvelles générations, cette approche intergénérationnelle, le MDPI veut aller dans les écoles, les universités, pour travailler aussi avec les jeunes. Et je pense que nous devons arriver à bannir les intérêts pour bâtir la paix. Puisque le plus souvent, ce sont les intérêts égoïstes qui priment sur la culture de la paix.
Alors, quelles sont les stratégies mises en place pour la mobilisation de fonds nécessaires en vue de pérenniser les actions de cette structure et produire des effets ou des résultats escomptés?
Nous sommes en train de solliciter l'appui du gouvernement congolais, donc le gouvernement central. Et nous avons beaucoup de foi, nous avons la foi aux autorités nationales, parce que par le fait que l'arrêté doit être pris au niveau national, nous espérons que le gouvernement central ne va plus oublier les MDPI. Je connais l'implication de son Excellence le vice-premier ministre en matière de paix, ce qu'il fait. Je crois aussi qu'au niveau provincial, le gouverneur militaire a l'habitude d'appuyer les actions de paix. Je vois les églises, je vois les partenaires techniques et financiers.
Christian Vangazi, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de MDPI. Je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
C'est la fin de ce journal. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté avec Dieudonné Nyangasa à la mise en onde et Jean Gandou à la supervision. Merci de votre attention. Bon après-midi.